du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, je rappelle d'abord à ceux qui m'écoutent sur Internet, qu'il y a de la place pour les retraites 3 à 6 de l'année 2020. Les deux premières retraites d'avril et mai sont pleines, mais il reste de la place pour toutes les autres retraites de juin à octobre. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Aujourd'hui, mes bien chers frères, c'est le dimanche dans l'octave de l'Épiphanie. Et c'est la fête de la Sainte Famille, une fête instituée par le pape Léon XIII en, je crois, 1892. Et l'Église aujourd'hui nous fait méditer sur le modèle de la famille, la Sainte Famille. Et dimanche prochain, l'Église me demandera de méditer sur la copie du modèle, la famille chrétienne. Puisque dimanche prochain, l'évangile du deuxième dimanche après l'Épiphanie sera précisément l'évangile du miracle de Cana, donc l'institution du mariage chrétien. Donc aujourd'hui, l'Église montre le parfait. Et puis, dimanche prochain, l'Église rappellera à tous les ménages chrétiens, toutes les familles chrétiennes, la nécessité de suivre l'exemple du parfait. Le mystère de la Sainte Famille est un mystère absolument insondable. Vivre, imaginez une famille, le père, la mère, l'enfant Dieu, vivant dans la présence constante de Dieu. Présence constante de Dieu. Et en même temps, la soumission de notre Seigneur Jésus-Christ à ses parents. Il y a un texte magnifique de Saint Bernard que l'Église nous donne au bréviaire cette nuit. C'était le bréviaire un texte de Saint Bernard qui dit, s'exclame, qu'est-ce qu'il puisse admirer. Un Dieu qui accepte de se soumettre à sa créature, ou une créature qui est élevée à la dignité de diriger le Fils de Dieu. Imaginez être Sainte Vierge Marie, littéralement, ayant le droit de donner des ordres à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Saint Joseph donnant des ordres à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ est homme, il est aussi Dieu. Et c'est la personne, il n'y a qu'une seule personne dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux personnes, attention. Certaines personnes pensent ça, qu'il y a deux personnes, une personne divine, une personne humaine. Non, c'est une seule et même personne, divine et humaine. Alors, il faut un petit peu méditer là-dessus et se rendre compte à quel point, justement, La Sainte Famille est pour nous un modèle. Je pense que la phrase clé pour nous aider à comprendre tout ça, c'est cette petite phrase en fin d'évangile aujourd'hui, « Il leur était soumis ». Et c'est parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça que, évidemment, les gens racontent des bêtises énormes. J'ai envoyé hier un texte ahurissant au cours de Bergoglio sur justement cette fête de la Sainte Famille. Il est allé jusqu'à dire, et j'ai eu le texte entre les mains, c'est absolument ahurissant, encore un manque de respect à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, en disant que notre Seigneur Jésus-Christ a dû s'excuser auprès de ses parents d'avoir désobéi et d'être resté à Jérusalem sans avoir prévenu ses parents, comme si notre Seigneur Jésus-Christ pouvait commettre un péché de désobéissance. On peut vraiment se poser la question de savoir s'il croit encore à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a là un mystère. Notre Seigneur Jésus-Christ le rappelle qu'il doit être aux affaires de son Père. Et il est évident que notre Sainte Vierge Marie, qui n'avait pas la science infuse, Saint Joseph encore moins qu'elle, évidemment n'ont pas compris. Et ce sont des choses qu'ils vont comprendre pendant longtemps. Alors méditons un petit peu là-dessus. On voit il y a plusieurs choses qui sont, à mon avis, très importantes à méditer. Je pense qu'un des premiers points, c'est de comprendre justement que dans l'éducation de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a eu une éducation entre Seigneur Jésus-Christ, là encore c'est un mystère. Les gens vont dire, mais notre Seigneur n'avait pas besoin d'être éduqué puisqu'il était Dieu. Il était Dieu, mais homme. Et il a voulu être homme en tout, sauf le péché. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, même si ce n'est pas dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ, comme homme, a dû littéralement, par exemple, apprendre à lire et à écrire. Et saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire, et c'est vrai, qu'il y avait en notre Seigneur Jésus-Christ, pas simplement une science infuse, pas simplement une science divine, mais aussi une science expérimentale. Une science expérimentale, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, a dû apprendre. Il a accepté, pour montrer l'exemple, alors qu'il est Dieu, qu'il est celui qui enseigne les hommes, il a accepté d'être enseigné et d'apprendre les petites choses de la vie de tous les jours. On ne sait pas pratiquement rien sur la vie d'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ est resté pendant 30 ans avec ses parents, hein, depuis la naissance jusqu'à le départ de sa vie publique. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans? Il n'est pas resté les bras croisés, rien faire. Et bien pendant 30 ans, il a fait tous les travaux domestiques de la maison, aidant sa mère, notre Sainte Vierge Marie, pour nettoyer la maison, pour faire la vaisselle, apprenant, encore une fois, de Saint Joseph, son père putatif, apprenant à manier le rabot, à manier la scie, apprenant à devenir un bon charpentier. Et on voit justement trois choses. On dit que ce sont les trois choses nécessaires pour éduquer les enfants. La douceur, la force, les convictions. La douceur, c'est la miséricorde. La force, c'est la justice. Les convictions, justement, sont les conséquences directes de la douceur et de la justice. Et pour avoir ces convictions par la foi et les transmettre à ses enfants, il faut les deux choses. S'il n'y a que la douceur sans la force, c'est-à-dire qu'il y a la miséricorde sans la justice, à ce moment-là, la miséricorde devient une faiblesse. Et s'il n'y a que la justice sans la miséricorde, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura plus que la force, et justement, il va y avoir la cruauté. Donc il faut équilibrer la miséricorde par la justice, équilibrer la justice par la force, donc il faut à la fois douceur et force. Et à ce moment-là, le bon Dieu permettra que sur ces deux fondations, la douceur et de la force, on puisse justement transmettre à nos enfants, puisque c'est le rôle des parents, transmettre, et c'est précisément parce que les parents des années 60 ont arrêté de transmettre, la plupart des cas, que nous sommes arrivés à transformer la France, qui était filiée de l'Église, en un pays de bandits. Alors, voyons un petit peu, en prenant l'exemple de la Sainte Famille, justement, rappelons les trois fonctions essentielles de toute personne en autorité. On voit là très bien, dans l'évangile de la Sainte Famille, et d'où la soumission de notre Seigneur Jésus-Christ à ses parents, on voit que les Saint Joseph et la très Sainte Vierge Marie ont exercé une autorité réelle sur la deuxième personne de la Sainte Trinité. Sur notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et donc il y a trois devoirs, non seulement pour la Sainte Famille, mais devoirs aussi pour chacun d'entre nous si nous avons des charges d'âme. Il y a le magistère, le ministère, le gouvernement. Et je pense qu'on peut méditer justement sur la fête de la Sainte Famille pour voir comment la très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph ont pratiqué de façon extraordinaire à la fois ce devoir de magistère, de ministère et de gouvernement. Premier devoir de la très Sainte Vierge Marie et de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils avaient des devoirs par rapport à leur enfant. Et on voit très bien dans l'Évangile, lorsqu'ils retrouvent notre Seigneur Jésus-Christ après l'avoir perdu pendant 3 jours, il est dit « Ses parents le cherchèrent avec angoisse. » Ses parents. Donc, ce n'est pas seulement notre Sainte Vierge Marie qui est véritablement, physiquement, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, mais Saint Joseph, bien qu'il ne soit que le père putatif, est appelé parent de notre Seigneur. Donc le premier devoir, c'est le devoir de magistère. Le devoir de magistère, c'est le devoir d'enseignement. Il y a un devoir d'enseigner, un double devoir d'enseignement. Le premier devoir d'enseignement, c'est l'enseignement, évidemment, de la vie surnaturelle de l'âme. Il y a un devoir pour les parents de donner une vie surnaturelle à l'enfant après sa naissance. C'est le devoir du baptême, baptiser l'enfant le plus vite possible, et après, ne pas se contenter simplement de baptiser les enfants, mais après donner aux enfants l'éducation religieuse dont ils ont besoin pour qu'ils puissent avoir cette colonne vertébrale qu'est la pratique de la foi catholique qui va pouvoir servir pour toute la vie. Donc le premier devoir des parents dans le magistère, c'est de donner un enseignement religieux à leurs enfants. C'est la première chose. Et cela entraîne une conséquence qui est beaucoup plus difficile, de faire aimer l'enseignement religieux aux enfants. Ça, encore une fois, on voit très bien les catastrophes des années 60 qui sont provoquées par ce manque, justement. C'est-à-dire que beaucoup de parents enseignaient encore le catéchisme, c'est encore enseigné dans les écoles catholiques, plus ou moins. Mais les parents sont absolument, les éducateurs ne sont plus préoccupés du tout de chercher à faire aimer le catéchisme à leurs enfants. C'est une chose de dire aux enfants qu'il fallait la messe tout le dimanche, c'en est une autre de faire aimer la messe aux enfants. Et si l'enfant quitte la famille lorsqu'il devient un adulte et qu'il n'aime pas la messe, qu'il n'aime pas son catéchisme, il va abandonner la foi. La deuxième conséquence de ce devoir de magistère, c'est l'éducation de l'intelligence. L'intelligence a un objet formel qui est le vrai. Et donc il faut nourrir cette intelligence et donc faire extrêmement attention pour des parents de donner une nourriture saine, naturellement parlant, pour former l'intelligence de leurs enfants. Si la plupart des jeunes en France, et très nets, sont devenus des espèces de nouilles, incapables de diriger, incapables de fonder quoi que ce soit, c'est parce que justement la formation de leur intelligence n'a jamais été faite. Comment voulez-vous qu'un enfant qui passe des heures et des heures par jour à jouer avec des jeux vidéo puisse avoir une intelligence formée? Et donc il y a le devoir, par exemple, grave, sous peine de péché grave des parents, de donner des lectures saines à leurs enfants, pas simplement pas forcément des lectures spirituelles d'ailleurs, c'est une erreur. Dans certaines familles tombent dans cette erreur de ne donner à leurs enfants que une formation spirituelle. J'ai connu quelques familles comme ça aux États-Unis. La prière est de rajouter la musique. Prière, sacrement, la musique, c'est tout. Et puis les enfants pratiquement savent ni lire ni écrire. Ben non, c'est pas suffisant. Il faut aussi former l'intelligence de nos enfants et donc de leur donner un petit peu l'amour des belle littérature française, ça ne manque pas dans les siècles passés, d'aller donner l'amour du vrai, l'amour du beau, l'amour du noble à nos enfants. Le deuxième devoir, qui suit le premier, mais qui travaille en étroite collaboration avec le premier devoir de magistère, qu'on appelle le devoir de ministère, le devoir de sanctification. Alors certes, dans la Sainte Famille, Notre Sainte Vierge Marie et Saint Joseph ne pouvaient pas sanctifier notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il était déjà le Saint des Saints, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais encore une fois, la Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph ont appris, ont mis, si vous voulez, dans l'âme de cet enfant dont ils avaient la charge, les premières prières. Donc la Très Sainte Vierge Marie a appris à notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph a dû faire la même chose, les prières de base, le catéchisme de. Peut-être pas le catéchisme tel qu'on conçoit aujourd'hui, mais puisque notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, qu'elle le savait très bien, mais comme notre Seigneur Jésus-Christ avait une science expérimentale, la Très Sainte Vierge Marie a aussi utilisé cette science expérimentale de notre Seigneur Jésus-Christ pour apprendre justement et se sanctifier. Imaginez un peu la prière du soir en famille, dans la Sainte Famille. Imaginons un peu les offices, il n'y a pas encore de messe à l'époque, mais les offices au temple. On voit très bien l'évangile d'aujourd'hui qui sont allés au temple de Jérusalem. Bon, il n'y avait sans doute pas de temple à Bethléem, qui était et ensuite à Nazareth, qui était des petits villages, mais il y avait une vie spirituelle réelle. Et donc il y a un devoir grave de la part des parents catholiques de donner à leurs enfants une véritable spiritualité pour que cette spiritualité grandisse avec leur corps et leur donne ces convictions qui sont absolument nécessaires. C'est là où intervenir encore, et la douceur et la force. Et enfin, la troisième obligation des parents, tous ceux qui en chargent, on l'oublie un peu trop, celle-là, c'est le gouvernement. Les parents ont un devoir grave de gouverner leurs enfants. De gouverner leurs enfants, ça veut dire de les diriger. Bon, la Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, la tâche était facile. Gouverner l'enfant Jésus est un plaisir. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait le moindre acte pécamineux, même pas un péché de fragilité, rien du tout, puisqu'il était Dieu. Cependant, cela doit nous rappeler le devoir des parents de gouverner. Et donc, ceci entraîne en premier lieu, le devoir d'apprendre aux enfants à obéir. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été désobéissant, c'est absolument évident. Mais nos enfants, autres que notre Seigneur Jésus-Christ, nos enfants à nous, eh bien, ils sont les obéissants, il faut leur apprendre à obéir. Et c'est précisément parce que les parents n'apprennent plus aux enfants à obéir que ces enfants, une fois adultes, sont incapables de commander parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir. Et donc, en cette fête de la Sainte Famille, il faut que les parents qui m'écoutent surtout sur Internet fassent leur examen de conscience. Ai-je rempli mon devoir de magistère, d'enseignement ? Ai-je rempli mon devoir de ministère, de sanctifier mes enfants ? Ai-je rempli mon devoir de gouvernement des enfants ? Est-ce que mes enfants sont en état de grâce ? Est-ce que j'ai formé l'intelligence de mes enfants ? Est-ce que j'ai appris à mes enfants à obéir ? Alors parfois, on voit souvent ça en retraite, avec des cas de conversion, des parents qui me disent un peu en pleurs, disant, monsieur l'abbé, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je n'ai pas rempli ces trois devoirs. Je n'ai pas instruit le cœur de mes enfants, je n'ai pas instruit l'intelligence de mes enfants, je n'ai pas appris à mes enfants à obéir. Maintenant, ce sont des petits voyous, ils ont 17, 18 ans, je fais quoi ? Tomber à genoux, prière. Rattraper la conversion, gagner, je dirais, la conversion de ses propres enfants par la prière et la pénitence. Regardez l'exemple, prenez l'exemple de Sainte Monique. Sainte Monique, pendant combien d'années a-t-elle prié pour convertir son garnement de fils, et qu'elle avait fait toutes les couleurs. Il est en concubinage, elle était partie dans le manichéisme, en plus elle avait un mari impossible qui était un païen. Eh bien, elle a prié pendant 30 ans. Elle a obtenu la conversion de son mari, de son époux, juste sur son lit de mort d'ailleurs, lit de mort de l'époux, et a obtenu la conversion par saint Ambroise de son fils Augustin, qui est devenu saint Augustin. Donc ne jamais, jamais, jamais le décourager, mais en même temps, de se rendre compte qu'il n'est jamais trop tard. Les conversions arrivent. Dieu merci, elles sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense. Il y a ces conversions, il faut demander au bon Dieu la conversion de nos enfants et pour nous, notre propre conversion. Pas simplement la conversion des enfants, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. La règle d'or dans l'éducation, c'est ça. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc je dois me remplir du bon Dieu avant de pouvoir former mes enfants. Malheur, dit saint Bernard, à celui qui prétend être un canal sans être un réservoir. Donc d'abord être le réservoir des grâces, se remplir des grâces du bon Dieu, pour avoir cette douceur, cette force et ces convictions, et ensuite utiliser ces trois éléments pour justement former nos enfants et leur donner ces deux choses qui résument toute éducation, l'amour de Dieu, la haine du péché. Est-ce que mes enfants, quand ils vont quitter la maison, auront l'amour de Dieu dans leur âme ? Est-ce qu'ils auront la haine du péché ? S'ils ont l'amour du bon Dieu sans la haine du péché, ce n'est pas vraiment l'amour de Dieu. Et s'ils ont la haine du péché sans avoir l'amour de Dieu, ce n'est pas la véritable haine de Dieu, il faut les deux. Saint David, il dit dans un des psaumes, « Qui diligitis dominum, audite malum. » Celui qui aime le Seigneur doit haïr le péché. Donc il faut demander toutes ces grâces dont nous avons besoin. Parce que même si nous ne sommes pas mariés, même pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants tout simplement, eh bien, il y a toujours le devoir de s'éduquer soi-même. On a une charge de magistère, de ministère, de gouvernement sur nous-mêmes. Il faut apprendre à dominer la bête, comme disait saint François, dominer frère âne. Il appelait son corps le frère âne. Ben, un âne, ça ne marche pas tout seul. Hein. Il faut une baguette et puis il faut taper sur le derrière de l'âne pour obliger l'âne à avancer quand il ne veut pas avancer. Et bien, c'est pareil avec nous-mêmes. Alors, demandons. En cette fête de la Sainte Famille, demandons à la Très Sainte Vierge Marie, demandons à Saint Joseph de mettre en nous justement cette douceur, ces convictions, cette force, pour que nous puissions, avec les grâces du bon Dieu, remplir notre devoir de magistère, de sanctification et le devoir de gouvernement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.